VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, les autorités musulmanes et catholiques du pays ont condamné ce mardi les attaques djihadistes qui ont frappé la capitale Ouagadougou vendredi dernier et fait 7 morts et plus de 80 blessés parmi les forces de sécurité. 9 djihadistes ont été abattus. La Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, condamne fermement et ne cessera jamais de le faire cette barbarie injustifiable, affirme le président du présidium de la FAIB, Cheikh Aboubakar Maïga, dans un communiqué. Pour sa part, le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, qualifie ces attaques d'injustes et les condamne fermement. L'attaque du quartier général de l'état-major des armées burkinabé et de l'ambassade de France à Ouagadougou a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est une coalition de 4 entités djihadistes du Sahel liées à Al-Qaïda. D'aucuns affirment qu'il est dirigé par le Touareg malien Iyad Ag Ali, chef d'Ansardine. Qu'en est-il? Yacouba Ouédraogo a joint Yehi Tandema, journaliste à Tombouctou, au Mali.
C'est un groupe qui est installé dans le Sahel. Il s'agit d'ACMI, il s'agit du FLN, le mouvement pour la libération du Massina. Il s'agit aussi du groupe Ansardine. C'est des groupes qui ont fait fusion et pour un objectif commun. Si vous voyez déjà le décor qui s'installe pour le G5 Sahel, c'est une façon de contrer l'ensemble de ces groupes qui se font entendre au niveau de ces frontières des pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina, la Mauritanie et le Mali.
Que revendique ce groupe-là?
Depuis 2012, ils n'ont jamais caché leur intention. Il s'agit de l'application de la charia d'abord dans le nord du Mali. Comme j'ai fait une interview avec un de leurs porte-parole qui m'a fait comprendre que après 50 années d'indépendance jusque-là, les populations ne parviennent pas à trouver le bonheur. Alors seule la charia peut apporter le bonheur.
D'aucuns disent que ce groupe est dirigé par Iyad Ag Ali. Est-ce qu'on en a la certitude?
On en a la certitude parce que c'est à travers une déclaration commune que les groupes ont accepté se faire diriger par Iyad Ag Ali. Mais là où on n'a pas la certitude, c'est par rapport à ces attaques qui se passent. Où aujourd'hui nous n'avons aucune preuve de dire que c'est Iyad Ag Ali qui est le cerveau quand même de ces attaques au niveau du Burkina, du Niger, mais au Mali, c'est possible. La dernière attaque au Burkina Faso, nous n'avons aucune preuve, ni les Occidentaux, ni moi-même, pour dire que Iyad Ag Ali est l'auteur de quand même de ces attaques. Quand le groupe a revendiqué, nous savons qu'il y a le cerveau quand même de ce groupe, et moralement, il est impliqué.
Iyad Ag Ali était connu pour sa défense et sa volonté de faire appliquer la charia. Quand est-ce qu'il a basculé dans l'extrémisme violent jusqu'à faire poser des bombes?
Je n'ai pas souvenance d'une période où il s'est basculé. Iyad que j'ai rencontré à Tombouctou était un homme lucide qui a rencontré la notabilité, les religieux, pour leur expliquer tout simplement sa démarche. Et jusque-là, faites un petit trottoir au niveau des communautés, les gens vous diront que nous avons la chance que le groupe est dirigé par Iyad parce que là, les populations ne sont pas visées. C'est seulement les forces armées de sécurité qui sont visées. Effectivement, nous n'avons pas d'attentats au niveau des mosquées ni dans les marchés, comme avec Boko Haram et autres groupes.
Là, on dirait qu'il est dans sa logique, puisque l'attaque de Ouagadougou a été celle de l'état-major général des armées et aussi de l'ambassade de France.
Voilà, ce qui me dit que jusqu'à preuve de contraire, c'est seulement les forces armées qui sont visées. Et dans toutes les revendications, ils font des mises en garde aux civils qui s'associent à ces gens.
Pourquoi les forces armées?
Pour eux, si la charia n'est pas appliquée, c'est parce qu'il y a des forces qui sont là, qui sont en train de les contrer pour l'application de leur politique.
Notre confrère Yehi Tandima, journaliste à Tombouctou au Mali. Toujours concernant la lutte contre les djihadistes au Sahel, le Pentagone a réagi hier à une vidéo diffusée par le groupe État islamique montrant les soldats américains tués dans une embuscade au Niger. Pour le Pentagone, cette publication démontre la perversion du groupe djihadiste. Bagassikora.
Le ministère américain de la Défense est informé de la publication de photos et d'une vidéo de propagande sur l'attaque terroriste du 4 octobre au Niger. C'est ce qu'a indiqué le Pentagone dans un communiqué, ajoutant que cette publication montre la perversion de l'ennemi que nous combattons. Cette compilation d'images dure 9 minutes et circule sur les réseaux sociaux depuis le 4 février. La vidéo montre des soldats américains sous le feu des assaillants et les corps ensanglantés d'au moins 2 Américains. L'un des soldats est d'ailleurs achevé sous l'œil de la caméra. Le 4 octobre, une cinquantaine de combattants djihadistes équipés d'armes automatiques, de grenades et de mitraillettes avaient tendu une embuscade à un convoi de 12 soldats américains et 30 soldats nigériens près du village de Tongo Tongo au Niger. 4 soldats américains et au moins 5 militaires nigériens ont été tués. L'attaque a été revendiquée par Abu Walid al-Sahraoui, l'émir du groupe État islamique au Sahel.
Merci Bagasikora.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, une dizaine de mouvements ont appelé à une grève générale pour ce vendredi. Ils entendent protester contre la mort de militants dans ce qu'ils appellent la répression criminelle des marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Le point avec Abdourahmane Dia.
Pour Gloria Senka, militante du mouvement Lutte pour le changement, une des organisations à l'origine de l'appel, cette journée ville morte vendredi sera en mémoire des manifestants tués. Il s'agit d'honorer les mémoires des héros tombés sur le champ de bataille en livrant l'ultime combat de leur vie, celui de la justice, de la liberté et de la démocratie, a-t-elle dit. Le 25 février, deux personnes ont été tuées par balle en marge des marches organisées par le Comité laïque de coordination CLC. Les autorités parlent de bavure et annoncent que leurs auteurs ont été arrêtés. L'un des policiers a été condamné à la prison à perpétuité à l'issue d'un procès express. La marche du 25 février était la troisième d'une série organisée à l'appel du collectif d'intellectuels proche de l'Église catholique. Ces manifestations ont déjà fait 17 morts d'après l'Église catholique et la mission des Nations Unies en RD Congo.
RDC toujours, le président Joseph Kabila a convoqué ce mardi les sept principaux opérateurs miniers dans le pays pour une réunion autour d'une réforme du code minier qui envisage notamment de multiplier par 5 une taxe sur le cobalt. Adopté au Parlement fin janvier, ce code minier révisé n'attend plus que sa promulgation par le chef de l'État. Les opérateurs du secteur ont sollicité cette rencontre pour exprimer leurs craintes face à la révision à la hausse du taux de redevance versée à l'État, selon un spécialiste du secteur. Première visite du secrétaire d'État américain Rex Tillerson en Afrique. La tournée du chef de la diplomatie américaine qui commence ce mardi va le mener au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria. Brian Newbert, l'un des porte-parole du département d'État, décrit les enjeux de ce périple.
Le secrétaire Tillerson, comme vous savez, a invité 37 délégations africaines à Washington novembre passé. Et donc, il a commencé une série de consultations avec ses homologues africains. Et cette visite est la suite de ces discussions. Je voudrais souligner que ce n'est que la première visite en Afrique. Donc, ces 6 pays sont très importants, mais nous savons bien qu'il y en a des autres. Donc, il y aura encore une visite en Afrique, on imagine, pendant l'année. Les États-Unis en Afrique, nous avons 3 priorités. Tout d'abord, la démocratie, puis deuxième, développement économique, et troisième, en général, la sécurité et stabilité. Ces 3 éléments, ils vont ensemble. Et le secrétaire Tillerson, il va discuter tous les 3 dans ses réunions officielles.
Brian Newberg, porte-parole au département d'État américain. Et toujours concernant l'actualité américaine, le président Donald Trump a affirmé lors d'une visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche lundi qu'il pourrait assister à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai, assurant que les relations entre les États-Unis et Israël n'avaient jamais été aussi bonnes. Les précisions de John Lindon.
Si je peux, j'irai, a affirmé Donald Trump, interrogé en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur un éventuel déplacement à Jérusalem pour l'ouverture de l'ambassade américaine. Ce transfert est prévu le 14 mai pour coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Je suis fier de cette décision, a-t-il ajouté depuis le bureau ovale, évoquant son choix en dépit de multiples mises en garde, de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu et d'y transférer l'ambassade des États-Unis actuellement à Tel Aviv. Interrogé sur le processus de paix israélo-palestinien, le locataire de la Maison-Blanche est resté évasif sur le calendrier des présentations de la proposition américaine, mais a réaffirmé sa conviction que la paix était possible, même s'il s'agit de l'accord le plus difficile qui soit. Nous y travaillons très dur. Je pense que nous avons une très bonne chance, a-t-il affirmé. Assis à ses côtés, M. Netanyahou a une nouvelle fois loué la décision de M. Trump sur Jérusalem et souligné combien, à ses yeux, la principale menace pesant sur le Proche-Orient était celle de l'Iran.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.